France Culture.
Et le journal est présenté par Julie Paco. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. La corruption tue, slogan brandi par des dizaines de milliers de manifestants à Belgrade, en Serbie, près de 5 mois après le début du mouvement de protestation contre la corruption et le gouvernement. Une coalition de pays volontaires aidera l'Ukraine en cas de paix avec la Russie, annonce faite par Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui a réuni aujourd'hui 25 dirigeants alliés, des dirigeants qui accusent Vladimir Poutine de retarder la mise en place d'un cessez-le-feu. Sous pression après les multiples révélations dans les sillages de l'affaire Notre-Dame de Bétharram, l'enseignement catholique reconnaît pour la première fois le caractère systémique des violences qui se sont déroulées dans certains établissements. Ils sont arrivés par vagues successives déferlant sur Belgrade. Des dizaines de milliers de manifestants se sont retrouvés dans les rues de la capitale serbe aujourd'hui pour protester contre la corruption et le pouvoir en place. Une protestation emmenée par les étudiants depuis novembre dernier et l'accident de la gare de Novi Sad qui a fait 15 morts et dont le point d'orgue semble avoir eu lieu aujourd'hui car c'est bien une marée humaine qui s'est rassemblée face au soutien du gouvernement et aux ultranationalistes. Reportage de notre correspondant Louis Seyé.
Certains avaient annoncé la plus grande manifestation de l'histoire de la Serbie et c'est en tout cas une foule immense qui a déferlé sur la capitale serbe. Venus des quatre coins du pays en famille ou entre collègues, des dizaines de milliers de Serbes ont répondu à l'appel des organisations étudiantes et ils ont rejoint les nombreux cortèges qui sont actuellement massés devant le Parlement. Dans une ambiance festive et bruyante et malgré la pluie printanière, les manifestants dénoncent toujours la corruption généralisée du régime en place, accusé d'être responsable de la catastrophe de la gare de Novi Sad qui a fait 15 morts le 1er novembre dernier. De plus en plus sous pression face à cette mobilisation inédite, le président Aleksandar Vučić a accusé les protestataires d'être payés par l'étranger pour préparer un coup d'État et une révolution de couleur. Selon les rares médias indépendants, des membres d'une ancienne unité de paramilitaires ainsi que des groupes de hooligans auraient été mobilisés par le régime afin de s'en prendre aux manifestants. Entièrement pacifique, la mobilisation étudiante dure depuis plus de 4 mois. Elle est largement soutenue par l'opinion publique serbe.
Louis Seyé. La balle est dans le camp de la Russie, prévient Keir Starmer. Le Premier ministre britannique a réuni 25 dirigeants alliés de l'Ukraine lors d'un sommet virtuel aujourd'hui, visant à constituer une coalition de pays volontaires pour aider à sécuriser le pays en cas d'accord de cessez-le-feu. Alors, si leurs responsables militaires se réuniront jeudi au Royaume-Uni pour discuter de la phase opérationnelle de ce plan de maintien de la paix en cas de trêve, encore faut-il que cette trêve soit acceptée par la Russie. Les dirigeants alliés ont donc multiplié les messages de pression envers Vladimir Poutine, Laura Kalmus.
Eh bien, la balle est dans le camp de la Russie. C'est ce qu'a déclaré Keir Starmer à l'issue de ce sommet virtuel réunissant plus de 25 dirigeants alliés de l'Ukraine. Les Européens, avec à leur tête le Premier ministre britannique, estiment que Vladimir Poutine devra tôt ou tard venir à la table des négociations. L'Ukraine a déjà montré sa volonté de paix en acceptant la proposition de cessez-le-feu de 30 jours formulée par les États-Unis. En revanche, Vladimir Poutine pose des conditions et semble chercher à gagner du temps, notamment en intensifiant les combats sur le terrain. Keir Starmer a appelé à maintenir la pression sur Moscou par des sanctions ou un soutien militaire accru à l'Ukraine. Il a annoncé une réunion des responsables militaires alliés jeudi au Royaume-Uni pour discuter de la phase opérationnelle du plan de maintien de la paix en cas de trêve. Les alliés ont réaffirmé leur engagement pour une paix juste et durable et évoqué de nouveaux soutiens militaires et logistiques pour renforcer l'Ukraine et dissuader toute escalade russe.
Laura, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette coalition de volontaires et quel est son rôle dans ce contexte ?
Eh bien, cette coalition des volontaires est une initiative lancée par Keir Starmer et Emmanuel Macron il y a 2 semaines. Elle rassemble des pays prêts à s'engager concrètement pour soutenir l'Ukraine, que ce soit en cas de cessez-le-feu ou pour renforcer la résistance ukrainienne face à l'agression russe. Lors de la réunion de ce matin, plus de 25 pays ont participé, dont des membres de l'Union européenne, de l'OTAN, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et bien sûr de l'Ukraine. L'objectif est de de coordonner les efforts pour, déjà, renforcer l'Ukraine militairement et économiquement, mais aussi surveiller un éventuel cessez-le-feu si la Russie accepte de négocier, et encore maintenir la pression sur Moscou via des sanctions économiques et diplomatiques.
Les explications de Laura Kalmus à Londres pour France Culture. Le Hamas dénonce une violation flagrante de la trêve par Israël après des bombardements meurtriers à Betlaya dans le nord de Gaza. D'après la défense civile dans l'enclave, 9 personnes, parmi lesquelles plusieurs journalistes, auraient été tuées. L'armée israélienne a, elle, affirmé avoir lancé 2 frappes contre des terroristes. Au moins 14 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées aux États-Unis dans de violentes tempêtes et tornades qui ont frappé le centre et le sud du pays la nuit dernière. 26 tornades ont été signalées dans le Missouri, l'Arkansas, l'Illinois et le Mississippi, d'après les services météorologiques. Pour la première fois, 2 victimes des violences à Notre-Dame de Bétharram ont pris la parole en présence de représentants de la congrégation. Ça s'est passé cet après-midi à Bayonne, lors d'un forum public consacré aux violences sexuelles organisé par une ONG. Forum perturbé par la prise de parole de 3 militantes fémaines qui ont apporté leur soutien aux victimes. Forum, au cours duquel également le vicaire régional a annoncé que la commission d'enquête indépendante chargée de faire la lumière sur les violences à Notre-Dame de Bétharram sera entièrement pilotée par un think tank indépendant. Ce représentant régional de l'Église qui a également reconnu le caractère systémique des violences à Bétharram. Une bonne chose pour Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique en France.
Je suis très ferme là-dessus. Le temps est révolu pour l'enseignement catholique, mais comme pour toute institution, le temps est révolu de protéger l'institution plutôt que la personne. Trop longtemps, on a voulu protéger l'institution plutôt que la personne, et c'est ça le drame. Et aujourd'hui, et comme depuis déjà de nombreuses années, je crois que vraiment, on a complètement changé par rapport à ça, et c'est indispensable, c'est absolument indispensable. Et évidemment, l'enseignement catholique d'aujourd'hui n'est pas celui des années 50, 70, 80, même 90 dans certains cas, on l'a entendu. On a déployé depuis 2018 un plan de protection des publics fragiles qui veille à la fois à comprendre les phénomènes, à les prévenir et à agir. Toute la société a un peu changé depuis 10 ans, depuis MeToo, depuis le rapport de la CIAS, depuis le travail de la Civise, qu'aujourd'hui les enfants sont écoutés, sont entendus, on a mis en place ce qu'on appelle le plan boussole, qui est un plan de prévention où toute la communauté éducative est concernée, c'est-à-dire que c'est un travail collectif, c'est tous les acteurs de l'enseignement en l'occurrence qui doivent se sentir concernés pour faire en sorte que toutes nos maisons soient des maisons de bientraitance éducative, soient des maisons sûres, et que s'il y avait des dérives, immédiatement, je dis bien immédiatement, on puisse agir, signaler les faits, les dénoncer au procureur, et vraiment tout ça a changé, c'est-à-dire qu'on n'avait plus la poussière sous le tapis aujourd'hui.
Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique au micro de France Info. Une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger ouverte par le parquet de Nanterre contre le groupe Total Énergie. Cela fait suite à une attaque djihadiste dans la ville de Palma au Mozambique en mars 2021. Le géant français des hydrocarbures menait un méga projet gazier dans la région en proie à une insurrection djihadiste. Sandrine Etoa-Andek, des familles de victimes et des survivants ont porté plainte à l'automne 2023, accusant le géant pétrolier français de négligence.
Le site de production de gaz naturel liquéfié de Total est à quelques kilomètres de la ville côtière de Palma. Cette ville stratégique, dans le nord du Mozambique, avait été attaquée le 24 mars 2021 par des djihadistes avant que l'armée ne reprenne le contrôle. 3 survivants et 4 proches de victimes de nationalité sud-africaine et britannique qui travaillaient sur la concession gazière accusent Total de négligence en amont. L'un de leurs avocats, Vincent Brengart.
Au moment de l'attaque, ce qui est dénoncé par les plaignants, c'est notamment le fait de ne pas avoir fourni du carburant au groupe de sécurité privée qui a alors été chargé de les protéger, ce qui l'a empêché de pouvoir mener à bien sa mission d'évacuation des personnes. C'est tout à fait impensable d'imaginer aujourd'hui que vous ayez un tel opérateur qui soit dans un tel état de défaillance.
Total dit rejeter fermement ces accusations et affirme que ses équipes ont permis l'évacuation de plus de 2500 personnes, des civils, du personnel, des sous-traitants. Le géant pétrolier français entend aujourd'hui reprendre l'activité sur le site. Jeudi dernier, l'administration Trump a approuvé un prêt de 4,7 milliards de dollars. Plusieurs ONG appellent les autres financeurs français notamment à ne pas participer au projet. Laurette Philippot, chargée de campagne pour les Amis de la Terre France.
C'est un projet monumental qui visait à extraire des ressources gazières en eau profonde au large du Mozambique pour les transporter dans un parc gazier qui ferait deux fois la taille de Paris. C'est une bombe climatique. Et donc, ce qu'on demande aux autres gouvernements et notamment aux banques françaises, Société Générale et Crédit Agricole, c'est de regarder en face les faits, ses poursuites judiciaires et de refuser de soutenir la relance de ce projet.
Le démarrage de la production est désormais envisagé par Total en 2029 ou 2030.
Sandrine et Théo Arendaigle, la météo avec de la neige attendue la nuit prochaine sur le centre du pays, le Puy-de-Dôme et la Creuse sont maintenus en vigilance orange. Des chutes de neige à basse altitude et en plaine qui se poursuivront au réveil demain du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que du sud des pays de la Loire au Poitou-Charentes. Les éclaircies domineront au nord de la Seine ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Les températures sont fraîches comptées, moins 1 à 1 degré en moyenne au réveil. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau, Anthony Thomasson à la technique.